Bonjour à tous. C'est bon de se souvenir de la grâce de Dieu en qui on peut mettre notre confiance à tous les jours, envers qui on peut croire en ses promesses. Mais est-ce qu'il vous est arrivé à un moment de douter des promesses de Dieu? Peut-être que vous en doutez maintenant. Ça peut arriver lorsqu'on vit des épreuves. Parce que Dieu promet à ses enfants qu'il prendrait soin d'eux en toutes circonstances. Même celle qui nous semble noire, Dieu promet qu'il prend soin de nous. Et il nous promet aussi qu'il pardonne nos péchés, même lorsqu'on commet les pires gaffes. On s'en veut, on se dit « c'est impardonnable ce que je viens de faire là ». Dieu promet qu'il nous pardonne si on se repent. Il nous a promis aussi qu'il allait récompenser nos bonnes œuvres, que même lorsqu'on travaille dans l'ombre, que personne n'a remarqué ce qu'on a fait, Dieu l'a vu. Il nous promet qu'il va nous récompenser. Il a promis aussi qu'il allait nous sanctifier. Peut-être que vous luttez et vous êtes dans un combat contre une mauvaise habitude, tenace, ou un péché qui reste collé. Mais Dieu a promis qu'il allait nous sanctifier, qu'il allait progressivement nous rendre parfaits. Il a promis aussi qu'il allait nous donner la joie, la paix, de l'eau. Merci. Oui. Il a promis qu'il allait nous donner la liberté. C'est quelque chose de réel, ça. On devrait se voir comme en paix, en joie, libre. Il allait nous redonner l'honneur, il allait nous relever lorsqu'on est abattu. Toutes les choses qu'il nous a promis. Il a promis qu'il allait jamais cesser de nous aimer. Même lorsqu'on pense qu'on est rendu seul, que Dieu nous a oubliés. Il a promis qu'il nous donnerait la vie éternelle. Il a promis qu'après notre mort, on allait ressusciter. Il a promis quelque chose qui semble impossible. Scientifiquement, c'est impossible, ça. Mais est-ce qu'on y croit? À certains moments de notre vie, il peut arriver qu'on doute des promesses. Certaines promesses peuvent sembler plus dures à croire que d'autres. Mais Abraham et Saraï arrivent à un moment de leur vie où est-ce que c'est très dur de croire à la promesse de Dieu, ou en tout cas de croire qu'elle va se réaliser comme Dieu l'a annoncé. Ça fait déjà plusieurs fois que Dieu a annoncé dans les textes qu'on a lus, dans les passages qu'on a lus dans les dernières semaines, Dieu a annoncé qu'Abraham et Saraï allaient avoir une grande descendance et qu'ils allaient posséder le pays. Là, ils sont rendus à un âge avancé, ils n'ont toujours pas d'enfants. On a vu la semaine passée que face à l'impasse qu'ils voyaient, ils ont même tenté de contourner le plan de Dieu ou de forcer un peu la main de Dieu en ayant un enfant par la servante de Saraï, Agar. Ce qui a conduit à toutes sortes de problèmes. Alors, on se trouve encore dans cette situation-là, mais un peu plus tard. Je vous invite à lire dans Genèse 17. On va commencer par lire les versets 1 à 14. Genèse 17, versets 1 à 14. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme un signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. On continuera à lire la suite plus loin. Donc Dieu apparaît encore une fois à Abraham. Il se présente comme le Dieu Tout-Puissant. C'est la traduction de El Shaddai. El Shaddai qui veut dire Dieu Tout-Puissant, Dieu pour qui rien n'est impossible, le Dieu suffisant. C'est une autre façon de le voir aussi. Le Dieu qui suffit en tout. Parce qu'il est Tout-Puissant, qu'il soit notre Dieu, on n'a plus besoin de rien d'autre. Il est la plénitude. Il peut tuer, donc il est tout suffisant. Mais ça faisait 13 ans depuis la dernière tentative d'Abraham et de Sarie d'avoir un enfant. Donc, il s'est écoulé 16 ans depuis le texte qu'on a eu la semaine passée. À ce moment-là, ça faisait déjà 10 ans qu'ils attendaient la réponse de la promesse de Dieu. Donc, en tout, ça faisait 23 ans au total que Dieu avait promis à Abraham qu'il allait avoir un enfant. C'est long, 23 ans. Là. Il y en a qui n'ont même pas encore 23 ans. Mais Dieu permet encore une période supplémentaire. Après que Abraham et Sarai avaient douté et avaient pris un détour, Dieu permet encore une attente de 13 ans. C'est comme si Dieu prenait une distance face à la solution humaine qu'ils avaient tenté de prendre. Et plus il attend Dieu, plus c'est humainement impossible qu'Abraham et Sarai aient un enfant. Là. Et plus ça va contribuer à ce que la gloire de Dieu éclate. Et il pourra démontrer toute sa puissance. Ce n'est pas pour rien qu'il se présente comme le Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai. Puis Dieu est sur le point de commencer l'accomplissement de sa promesse. Lorsqu'il dit, au verset 2, « J'établirai mon alliance. » En fait, le verbe ici aurait peut-être dû être traduit autrement. C'est « Je vais l'accomplir, je vais la donner, mon alliance. » Parce qu'il l'avait déjà accompli, on l'a vu. Il l'avait déjà promis. Il avait déjà fait alliance. On l'a vu lorsque Ronald a prêché il y a quelques semaines. Il avait fait alliance où même un animal avait été coupé en deux et Abraham avait marché en symbolisme d'une alliance, un pacte entre lui et Dieu. L'alliance avait été conclue, mais elle n'était pas encore débutée. Et maintenant, Dieu dit, maintenant je m'apprête là à te la donner, mon alliance avec toi. Puis Dieu indique quelle est la part d'Abraham dans cette alliance-là. Tout de suite, il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » C'est ce qu'il s'attend d'Abraham. Sa part du marché, c'est « marche devant moi et sois intègre. » Ça veut dire « sois à mon service, sois un serviteur fidèle, sincère. Je n'attends pas de toi des actions où ton cœur n'est pas là. Je veux un serviteur qui est entier. » On peut même déduire par là qu'il veut un serviteur qui va marcher, qui va obéir dans tout ce qu'il va lui dire. Donc, il s'attend d'Abraham, d'être un serviteur parfait. En un mot, il s'attend d'Abraham de marcher devant lui par la foi. Il soit un homme de foi. Ce qu'il demande à Abraham, nous comprenons plus loin qu'il le demandera aussi à ses descendants. Si les descendants font partie de l'Alliance, les descendants aussi sont destinés à marcher devant l'Éternel et d'être intègres. Puis Dieu est prêt à lui pardonner même la gaffe qu'il a commise il y a 13 ans, ce qui est un affront, une insulte à sa puissance. Dieu lui pardonne, puis dit, il est quand même prêt à établir son alliance avec lui et avec Sarah, Sarai. Puis Abraham, voyant cela, il tombe face contre terre, se prosternant devant son Dieu. Il se soumet à son Dieu. Puis comme premier signe de l'engagement de Dieu dans son alliance, il change son nom. Il change le nom d'Abraham en Abraham. Abraham veut dire « père élevé ». C'est peut-être ses parents qui l'avaient nommé comme ça ou il a été nommé comme ça par la suite. Peut-être c'est en lien avec son père, Terah, qu'il voulait dire que le père d'Abraham était un père élevé. Ou peut-être que lui-même a été nommé « père élevé » parce qu'il est devenu puissant. Mais Dieu change son nom, Abraham. Et lorsqu'on lit en hébreu, c'est une assonance. Ça sonne pareil comme père d'une multitude, père d'une foule de nations. C'est comme un jeu de mots. Donc, Abraham veut dire père d'une multitude. Donc, il ne s'agit plus d'un père élevé, mais le père d'une grande descendance. C'est un signe. Dieu change son nom pour lui dire, je vais vraiment accomplir ce que je prédis. Et dans les générations à venir, on va continuer à t'appeler Abraham, Les gens vont se souvenir de la promesse et de mon engagement dans cette alliance. Puis Dieu a voulu voir la foi d'Abraham en premier lieu. Pas pour rien qu'il lui dit « Marche devant moi, sois intègre. » Mais cette foi, ce n'était pas une simple croyance. Ce n'était pas simplement de croire que Dieu existe. Dieu voulait une foi qui pousse Abraham à obéir à Dieu. Le premier acte d'obéissance que Dieu a exigé de sa part, c'est de se faire circoncire. Ce n'est pas évident. Vous irez voir sur Internet ce que ça veut dire d'être circoncis. Ce n'est pas tentant. C'était le deuxième signe. Là, c'était le signe de l'engagement de l'homme dans cette alliance. C'était le signe que l'homme et son épouse et toute sa maison, dans le fond, s'engageaient dans l'alliance de Dieu. C'était un signe aussi de soumission du corps. L'homme, en faisant cela, se soumettait, il s'engageait à soumettre son corps à la volonté de Dieu. Pas seulement ses pensées, mais ses actions, toute sa vie. Il se soumettait à la volonté de Dieu. Puis Dieu voulait une soumission totale et une soumission pure. Pure de tout compromis. Donc la circoncision symbolise là, la soumission et aussi la pureté. Et ce n'est pas pour rien que Dieu dit que l'enfant doit être circoncis, mais il faut attendre à ce qu'il ait un âge de 8 jours. Parce que pour Dieu, la période des 7 premiers jours dans la vie est considérée comme impure. Il fallait attendre que l'enfant soit pur, qu'il soit circoncis, que ce soit un signe de pureté et que ça le demeure. Il est dit dans Lévitique 12, « L'Éternel parlait à Moïse, et il dit, « Parle aux Israélites et dis-leur, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. » Ben, elle et son enfant. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Et le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Puis ça donne que, par hasard, à l'âge de 8 jours, un enfant ne ressent presque pas de douleur. Là. C'est comme l'âge idéal que la science a découvert pour qu'un enfant soit circoncis. Mais c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Donc, la soumission et la pureté qui sont liées à la circoncision, ça nous aide à comprendre un peu les expressions qui viennent plus tard dans la Bible où il est question de la circoncision du cœur, la circoncision de nos pensées. Ce qui veut dire d'avoir un cœur soumis, un cœur pur, entier. C'est ça, la circoncision, c'est de couper avec toute impureté, couper avec tout compromis, d'être intègre, de marcher devant l'Éternel. Il est dit dans Lévitique 26, verset 41, « Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils payeront la dette de leur faute. » Ou dans Deutéronome 10, 16, « Vous circoncirez donc votre cœur, vous ne raidirez plus votre nuque. » Donc, soyez soumis. Dans Deutéronome 36, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu. » De tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Avec un cœur entier. D'ailleurs, c'est l'image d'une circoncision qui allait être parfaite dans la nouvelle alliance, la circoncision spirituelle. La circoncision physique a fait place à la circoncision spirituelle en Christ. Il est dit dans Colossiens 2, 9 à 11, « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, Jésus est le El Shaddai, le Tout-Puissant. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Mais c'est une circoncision qui est le dépouillement du corps et de la chair, la circoncision du Christ. Qu'est-ce que c'est, ça, le dépouillement du corps et de la chair? On le voit dans Philippiens 3, versets 2 et 3. « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. À nous qui glorifions en Christ Jésus. » et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Donc, c'est ça, se dépouiller du corps, se dépouiller de la chair, c'est de ne plus faire confiance en nous-mêmes, en nos propres œuvres, en nos propres plans humains, en notre propre destinée, mais à faire confiance en Jésus. La circoncision, c'est de couper avec la confiance en nous-mêmes et de reposer complètement notre confiance sur Jésus pour notre destinée, pour notre bonheur, pour notre avenir, pour notre vie éternelle. Dans Galates 5, 1 à 6, il est dit, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Demeurez donc ferme. Ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, là, il parle de la circoncision physique, Christ ne vous servira de rien. Je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. S'il fait cela, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, dans cette nouvelle alliance, il n'est plus question de faire des gestes physiques, de respecter des principes de loi. Si c'était le cas, il faudrait respecter toute la loi qui a été donnée dans le livre de Lévitique, dans Deutéronome. Les sacrifices, il fallait observer, toutes les fêtes, le sabbat, les 10 commandements. Mais Jésus nous dit, vous avez maintenant une circoncision du cœur, une circoncision spirituelle. Et la loi que je vous demande d'appliquer, c'est de cesser de faire confiance à vous-même, en vos propres œuvres, dans votre désir de vous justifier vous-même et de mettre votre confiance en moi seul. Dans Galates 6, 15 et 16, il dit, « Car ce qui compte, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. C'est ce qui procure la paix, le pardon de Dieu. » Mais nous qui sommes chrétiens, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'on est circoncis de cœur? On a été circoncis spirituellement, on est dans la main de Dieu. Mais est-ce que notre vie est conforme à cela? Est-ce que notre cœur est conforme à notre état spirituel? Est-ce qu'on est soumis à Dieu en toutes circonstances? Est-ce qu'on lui fait confiance lorsqu'il nous dit de ne pas faire cela ou de faire cela? Est-ce qu'on suit sa volonté? Est-ce qu'on se garde pur? Est-ce qu'on marche de manière intègre devant celui qui nous voit constamment? Dieu n'est pas un Dieu lointain qui ne voit pas ce qui se passe. Il nous voit, on marche devant lui. C'est soit qu'on marche de manière intègre et pure, entière, ou on marche de manière hypocrite. Ce Dieu tout-puissant, c'est celui qui est capable de l'impossible. Et c'est ce qu'il annonce à Abraham. Lisons la suite dans Genèse 17, à partir du verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sara. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Et Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? » Puis Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vivre devant ta face! » Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. » À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu et je le bénirai. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis ainsi que son fils Ismaël. De même, tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Donc Dieu donne ici un troisième signe à cette alliance. Il avait commencé par changer le nom d'Abraham. Ensuite, il a donné comme autre signe la circoncision, qui est l'engagement de l'homme dans cette alliance. Il donne un troisième signe, il change le nom de son épouse, il change le nom de Saraï en Sarah. Saraï veut dire « ma princesse ». C'est peut-être Abraham qui l'avait appelée comme ça, « ma princesse à moi ». Mais Dieu, il dit « maintenant, elle va s'appeler Sarah ». Ça veut juste dire « princesse ». Elle devient la princesse d'un peuple nombreux, d'une multitude qui va sortir d'elle. Elle est notre princesse, à nous qui sommes fils d'Abraham. Et Dieu annonce l'impossible à Abraham. La descendance promise viendrait de Sarah. Puis là, Abraham se prosterne par acte de soumission, mais il ne peut pas s'empêcher de rire. De rire devant l'impossibilité de ce que Dieu lui dit. Lui et sa femme sont trop vieux. C'est impossible. Et même, on entend plus tard que Sarah dit qu'elle n'est plus disposée, elle n'a plus ses menstruations. C'est terminé, là. La seule possibilité qu'il voit, c'est que sa descendance passe par le fils qu'il a eu avec sa servante, par Ismaël. C'est pour ça qu'il dit « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face, mon Dieu! » Mais Dieu le reprend « Non, non! C'est avec ton fils Isaac! » C'est étonnant de voir Abraham, l'homme de foi, qui rit. Au point où même, je lisais des commentaires de rabbins juifs, puis eux, ils disent qu'Abraham a seulement souri parce qu'il était content de voir que Dieu lui promettait un fils. Ah non, c'est bien dit qu'il a ri. C'est exactement le même mot que quand Sarah a ri. Mais ce n'était pas pour se moquer de Dieu, c'est parce qu'il riait devant l'impossible. S'il y a une chose qui est drôle, c'est vraiment une chose impossible. Si vous voulez faire rire des petits-enfants, vous avez juste à leur dire quelque chose d'impossible, ils vont rire. Comme hier, j'ai vu de la neige mauve, je l'ai mangée et ça goûtait la gomme ballon. Vous voyez, c'est drôle. Ou... les Canadiens de Montréal vont gagner la Coupe Stanley cette année. Non, ça, c'est possible, c'est possible. OK, c'est possible. Les Maple Leafs vont gagner la Coupe Stanley cette année. Ça, c'est drôle. Mais, parce qu'on a juste à penser à des choses impossibles, puis tout de suite, on sourit, là. C'est comique. Donc, c'était normal qu'Abraham rit à l'âge avancé où il était. Voyons donc, je peux pas... La boutique est fermée, là. Mais Dieu confirme, c'est de Sarah que tu auras un fils. Et ce qu'Abraham voit être impossible n'est pas impossible pour Dieu. Il s'est présenté comme le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui réalise l'impossible. Aussi vrai que Dieu va donner un fils à Sarah, aussi vrai que Dieu va accomplir sa promesse de lui donner une descendance. Donc Dieu a promis que la génération future d'Abraham, une fois qu'Abraham et Sarah seraient morts, que ses enfants continueraient d'avoir des enfants de génération en génération. Quelle preuve pouvait avoir Abraham que Dieu allait tenir sa promesse et allait être en mesure de contrôler les événements pour assurer une descendance à travers toutes les guerres qu'il y a eues? Mais Dieu lui donne la preuve, là. Il fait naître un enfant de manière miraculeuse. Et ça va être suffisant pour Abraham pour que sa foi soit fortifiée et qu'il croit que Dieu va accomplir sa promesse de lui donner une nation, une descendance perpétuelle. Donc, dans sa grâce, Dieu s'abaisse à donner une preuve à Abraham pour fortifier sa foi. Puis d'ailleurs, pour qu'Abraham se souvienne qu'il avait douté, il lui dit « Tu vas appeler ton fils Isaac ». Isaac veut littéralement dire « Il a ri ». Donc, toute sa vie, tout le restant de la vie d'Abraham et de Sarah, lorsqu'il parlait d'Isaac, ça leur revenait en mémoire. « Il a ri ». « Ouais, j'ai ri ». Pour qu'ils se souviennent qu'ils avaient douté. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous aussi. Il s'est abaissé dans sa grâce à nous donner une preuve pour qu'on croie en la promesse. La plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est qu'un jour, après notre mort, il va nous ressusciter. C'est difficile à croire, ça. C'est humainement impossible. Les gens voudraient avoir une preuve scientifique que c'est possible, là, cela. Mais Dieu nous a donné une preuve. Il a ressuscité son fils, Jésus. Et il a permis qu'il vienne sur la terre, qu'il y ait une foule de témoins qui le voient. Et Jésus a dit lui-même que si Dieu a permis cela, qu'on le voit, c'était pour qu'on croie qu'un jour, il va nous ressusciter. Et lorsqu'on croit que Jésus est ressuscité, ça vient fortifier notre foi. On n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de l'avenir. On sait qu'un jour, Dieu est capable de nous ressusciter. Abraham n'avait pas encore vu cette preuve-là, mais pourtant, il a cru. Et il a ri, mais pourtant, il l'est dit quelques chapitres plus tôt, lorsque Ronald nous a prêché, on a vu que Abraham a cru et ça lui a été compté à justice. Ça lui a été imputé comme une justice. Parce qu'il a cru dans la promesse de l'Éternel, il est devenu un juste. Il a été enlevé parmi le groupe des criminels, le groupe des injustes aux yeux de Dieu, il a été mis dans le groupe des justes. Pourtant, Dieu savait qu'un jour ou l'autre, Abraham finirait par douter encore. Ça montre qu'Abraham est comme nous. Même si on a eu la foi un jour pour croire dans la promesse de Dieu, mettre notre confiance dans le sacrifice de Jésus, il peut nous arriver de douter. Mais heureusement, notre destinée éternelle ne dépend pas de la fermeté de notre foi, parce qu'on faillit. Mais notre foi peut être affirmée. Et même, on voit que lorsque notre foi est faible, Dieu prend charge lui-même de venir provoquer des événements chez nous pour renforcer notre foi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il lui a parlé. Et la manière dont il lui a parlé, on ne voit pas la scène ici, là, mais il a emmené Abraham à croire. Et ce qui nous prouve qu'il a cru, c'est que le jour même, il a fait circoncire toute sa maison, incluant lui-même et Ismaël. Puis même les détails qui sont montrés de manière répétitive, tous les gens dans sa maison ont été circoncis, les gens qui sont nés dans sa maison, et même ceux qui avaient été achetés à prix d'argent, les étrangers, tout ça est répété, mais c'est vraiment pour montrer qu'Abraham a fait à la lettre ce que Dieu avait demandé. Il a obéi. C'est une preuve qu'il a cru. Avant même d'avoir vu la preuve de l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire que Abraham a cru avant même de poser un geste d'obéissance et il a été compté parmi les justes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'obéissance qui nous rend justes, c'est la foi qu'on a eue en Dieu. Comme on l'a chanté tantôt, grâce infinie. C'est une grâce que Dieu nous fait lorsqu'on met notre foi en lui. Je vous demande de tourner dans Romains 4, mais de garder un doigt dans Genèse 17, parce qu'on va y revenir. Romains chapitre 4. J'essaie de voir quel verset on pourrait lire dans Romains 4, mais tout le chapitre 4 parle exactement de ce qu'on est en train d'étudier. Donc, je pense qu'on va le lire en entier. On a le temps, mais ça ne sera pas long. Romains chapitre 4. Dans le Nouveau Testament, Romains 4, verset 1. « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si, en effet, Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. » Donc, si Abraham avait été trouvé juste aux yeux de Dieu parce qu'il avait obéi, il pourrait se vanter, il pourrait se glorifier de cela. Verset 2. « Si, en effet, Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Donc, ce n'est plus une grâce, c'est un dû. Mais quant à celui qui n'a pas encore fait d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est compté comme justice. » Là, c'est une grâce de Dieu. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux est l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Donc, est-ce qu'on est trouvé juste à cause de la circoncision? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham, la foi lui fut comptée comme justice. Comment donc était-il, lorsqu'elle lui fut comptée, était-il circoncis ou non? Non, il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, Paul veut vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'Abraham a cru d'abord et il a été compté parmi les justes. Et c'est pour ça que Dieu fait son alliance avec lui et qu'il lui donne son alliance et qu'il la démarre, qu'il la met effective. Et c'est pour ça, c'est parce qu'Abraham avait eu cette foi-là. Et même s'il a douté un moment et qu'il a ri, on a vu qu'il avait une véritable foi parce qu'après, il s'est repris et il a exécuté exactement ce que Dieu lui avait donné, ordonné de faire. Si on continue encore dans Romains 4, verset 13. « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père à tous devant Dieu en qui il a cru. Qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ici, je pense qu'il fait référence à Isaac, la descendance d'Abraham qui n'existe pas. Mais le Tout-Puissant amène à la vie ce qui n'est pas encore vivant, amène à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, « Telle sera ta descendance. » Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, ce que le El Shaddai a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « Cela lui fut compté », c'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Donc, le parallèle est fait ici. Là. Le signe, Abraham a cru, et la circoncision était un signe que Dieu a pu mettre son sceau sur lui, et que pour l'éternité, il serait compté dans sa famille, dans ses enfants, et qu'il assurait une descendance. Eh bien, nous, ce qu'il nous demande de croire, c'est que Christ est réellement ressuscité, et que par sa mort, on peut être pardonné, et que comme Christ a été ressuscité, Dieu a le pouvoir de nous ressusciter. Si on croit à cela, c'est qu'on fait confiance à la promesse de l'Éternel. C'est qu'on a la foi. Et si nous avons la foi pour croire que Dieu a ressuscité Jésus, il nous rend justes à ses yeux. Il nous compte parmi les justes. Ils ont la suite de Genèse. Dans Genèse 18, le dernier passage, où l'Éternel renouvelle encore son annonce qu'il a fait un peu plus tôt. Genèse 18. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente. Et ici, je vous demande de noter que constamment le texte passe du singulier au pluriel en ce qui concerne l'Éternel, parce qu'il apparaît sous forme de trois hommes. Parfois, c'est par la « il », parfois c'est « il » au pluriel, « je »,« nous ». Je pense que c'est voulu par l'auteur ici. Il leva les yeux et regarda. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. » Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et lui dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Et il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et l'un d'entre eux, en fait, littéralement, ici, c'est « Il dit. » On vient de passer de « il » au pluriel au « il » singulier. « Il dit, « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, » c'est la traduction Colombe, « aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Alors Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si, tu as ri. Donc le texte passe continuellement du singulier au pluriel et inversement. Je pense qu'ici, c'est... l'auteur est en train de nous faire une allusion à la Trinité de Dieu, ce qui n'est pas clairement révélé dans l'Ancien Testament, mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on le comprend ici. Mais Dieu est en train de se présenter, il est en train de présenter l'impossible dans ce texte, que Dieu est un, il n'y a un seul Dieu, il est unique, mais en même temps, il peut se présenter en 3 personnes. Il se présente au pluriel. Et c'est voulu que parfois Abraham s'adresse à eux, parfois il s'adresse à lui, et ça se chevauche. C'est comme si... c'est comme s'il y avait une erreur dans le texte ici. Au point où même les Juifs, lorsqu'ils l'ont traduit dans la Septante, ils ont tout mis au singulier, parce qu'ils pensaient que c'était une erreur. Mais ce n'est pas une erreur, c'est voulu. C'est pour montrer que Dieu, même dans sa personne, ça dépasse notre entendement. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Tout-Puissant. Il est 3 personnes en 1. Et même, il y a un autre indice ici. Dans le contexte, Dieu fait 3 actions simultanées ici. Premièrement, il promet et il accomplit ses promesses. Donc, il est en train de s'occuper de pourvoir un enfant à Sarah. Il met tout en œuvre pour que ça se passe. En même temps, on va le voir la semaine prochaine, il est en train de planifier le châtiment de Sodome et Gomorre, le jugement sur ces villes de péché. Et en même temps, il est en train de planifier de secourir Lot, qui est compté parmi les justes. Il fait 3 choses à la fois dans 3 endroits différents. Ce que humainement, on ne serait pas capable de faire. Et c'est un autre indice que Dieu est tout-puissant. Il peut agir d'une même volonté, mais en 3 personnes indépendantes. Il est vraiment le Dieu El Shaddai. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ses règles avaient cessé. C'est vrai que c'était impossible. La réaction de Sarah est la même que celle d'Abraham. Elle a ri. Encore une fois, ce n'était pas pour manquer de respect à son Dieu. Elle est comptée parmi les femmes de valeur, femme de foi, mais elle rit devant l'impossibilité. Mais elle a vu quand même que c'était une insulte à Dieu. Et il est dit qu'elle a été saisie de crainte, au point où elle a menti. Non, je n'ai pas ri. C'est un peu stupide, parce que si Dieu a été capable de voir qu'elle avait ri, il est capable de voir qu'elle a menti. On ne peut rien cacher à Dieu. Mais bon, on est pris au piège, là. Mais ça nous ramène à la première phrase que Dieu a dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » Ce que Dieu veut, c'est un cœur sincère, qui avoue même ses doutes. Mais un cœur qui est prêt à croire tout ce que Dieu nous dit. Comme un enfant est prêt à croire son père. Un cœur simple, innocent. Et il a donné une bonne leçon à Abraham et à Sarah. De ce qu'il attend d'un serviteur intègre. Il s'attend d'un serviteur intègre qui ne doute pas de lui. C'est pour ça qu'il a nommé leur fils Isaac, je pense. Hilarie. Donc Dieu Tout-Puissant, dans l'alliance faite avec Abraham, a donné la circoncision comme un signe que c'était une alliance perpétuelle. Mais la responsabilité était du côté de l'homme de respecter l'alliance. Il fallait que ses enfants, après lui, se fassent circoncire, et ainsi de suite. Puis il fallait aussi qu'ils respectent l'engagement. Ce n'était pas seulement circoncision physique. C'était joint à un contrat. Il fallait qu'ils respectent leur engagement devant Dieu. Mais parce que la responsabilité était du côté de l'homme, on a vu que malheureusement, elle a été défaillante, cette alliance. Parce que l'homme est facilement corrompable. Comment on dit ça? Corruptible. Il est faillible, il est faible, il est enclin au mal. Les hommes, en général, sont faibles et infidèles. La circoncision, c'était un signe que Dieu allait tenir sa promesse, c'était un signe d'engagement, mais ce n'était pas un signe que l'homme allait être capable de respecter cette alliance-là. Mais heureusement, la nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ nous amène un signe qui montre que l'homme, que Dieu est capable de nous rendre capable de tenir notre engagement. Dans la nouvelle alliance avec Jésus, le signe qui montre que l'alliance est éternelle, il y a plusieurs signes, mais celui qui montre que l'alliance est éternelle, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné. Vous lirez Éphésiens, chapitre 1, où il est question que celui qui est converti reçoit comme un sceau le Saint-Esprit en lui, qui est un gage de notre héritage. C'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous et qu'on voit que Dieu est en train de nous transformer. On voit que Dieu renouvelle nos pensées, qu'il est en train de faire l'impossible dans notre vie. Il est en train de réaliser ce qui humainement est impossible à changer. Ça nous prouve que Dieu garde son alliance et même qu'il nous rend capable de garder son alliance. Progressivement, il nous rend parfait, il nous rend capable d'accomplir et de respecter son alliance. C'est Dieu qui a pris la responsabilité de s'assurer que cette alliance-là soit accomplie, soit respectée. Donc, la circoncision spirituelle est meilleure que la circoncision physique. Parce qu'elle nous assure que nous allons respecter l'alliance. Donc, les bénédictions qui sont associées à cette alliance-là sont assurées. Même si on défaille, Dieu promet qu'il va nous relever, on reste dans sa main. Et lorsque vous lirez Éphésiens 1, vous verrez toutes les bénédictions qui sont listées et qui sont assurées parce qu'on a le Saint-Esprit. On est officiellement inclus dans le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu. On fait partie de son peuple, on est chéri, on devient ses bien-aimés. En plus, on a une relation intime avec Dieu parce qu'il nous adopte comme ses enfants. On n'est pas seulement ses voisins proches, on devient ses enfants. Ses enfants deviennent dans sa famille. On devient les frères de Jésus, son fils unique, les frères et sœurs de Jésus. En plus, Dieu, parce qu'il nous a admis dans sa maison, il a promis qu'il nous lave complètement. On est pur. On n'a aucune saleté sur nos pieds pour salir son plancher. On est complètement pardonné de toutes les impuretés qu'on a pu commettre et qu'on va commettre. En plus, il nous donne l'intelligence par le Saint-Esprit pour qu'on comprenne ces choses-là et qu'on puisse déjà commencer à apprécier le salut qu'il a préparé d'avance pour nous. Il s'est révélé à nous. Il a révélé son plan. En plus, il nous promet qu'on a un héritage dans le royaume des cieux. On n'est pas seulement des gens qui habitent sous le toit de quelqu'un d'autre. Au ciel, on devient des propriétaires. On est des co-héritiers. Propriétaires des lieux célestes, c'est tout un honneur. Donc, face à ces promesses, Dieu nous demande de croire qu'il est le Tout-Puissant et que peu importe ce qu'on vit sur la terre, ses promesses ne vont pas défaillir. Il est le El Shaddai, capable d'accomplir l'impossible. Si notre foi est assez forte, on ne va pas rire devant ses promesses, devant les annonces qu'il nous fait. Si parfois on est tenté de rire, il faut faire comme Abraham. Il a écouté l'Éternel et l'Éternel a fortifié sa foi. Si on est tenté de douter, parfois c'est l'ennemi qui met le doute dans notre cœur. La solution pour que notre foi soit renforcée, c'est d'écouter l'Éternel. Ses propres mots vont renforcer notre foi. Comment on écoute l'Éternel? Bien, on lit la Bible. Je vous encourage à lire quotidiennement sa parole. Votre foi sera renforcée. Vous ne rirez plus devant les annonces de l'Éternel. Amen.